Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Amérique de Donald Trump ou la revanche de l'homme blanc avec la politologue Marie-Cécile Nave et le réalisateur du documentaire America en salle aujourd'hui, Klaus Drexel. A-t-il tenu sa promesse, celle de faire de l'Amérique un pays à nouveau great again? On en parlera avec nos invités à partir de 12h55 après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, le Graal. Terry Gilliam en Don Quichotte. Première fois pour lui à l'Opéra de Paris accompagné du chef Philippe Jordan est sur scène de Pretty Yende, de John Osborne ou encore de Maurizio Muraro. Il signe la mise en scène et les décors de Benvenuto Cellini de Berlioz, à voir jusqu'au 14 avril. Il vient par ailleurs de finir le tournage de son film Maudit, L'homme qui tua Don Quichotte, une aventure entamée il y a plus de 20 ans, un projet plusieurs fois avorté, enfin réalisé. Le réalisateur britannique de Brazil et de l'Armée des 12 singes est l'invité exceptionnel de cette grande table du mercredi.
La grande table. Olivia Jesbert.
C'est OK. Something in there.
Terry Gilliam, vous pensez qu'on va réussir cette interview?
I don't think so.
Je suis pas sûr.
Because the equipment
parce que la machine fonctionne pas très bien.
It's better now. I think we
c'est mieux maintenant. Je pense qu'on peut y aller.
Let us continue, please.
Continuons.
Bonjour, Terry Gilliam.
Hello.
Et bonjour à votre voix française, Harold Manning.
Bonjour.
Une ouverture en fanfare pour ce Benvenuto Cellini de Berlioz, fulgurante, dit-on. Est-ce que vous l'avez en tête? Vous pouvez nous la fredonner?
Non. Là, en ce moment, j'ai l'esprit très pris parce qu'on a écouté aujourd'hui tellement de moments de la partition et pas du tout dans l'ordre. Mais c'est pas l'ouverture, ça, non? Non, c'est quelque chose d'autre.
Puis, au bout de quelques secondes, on avance à pas de loup, avec quelques percussions, le souffle peut-être d'une clarinette. Ainsi commence ce Benvenuto Cellini. C'est un opéra comique en deux actes du 19e, avec un livret et une partition réputés l'un et l'autre difficiles à interpréter, inspirés de la vie de ce sculpteur florentin du 16e, Cellini, appelé à confectionner une statue de Persée. Cellini, il est amoureux de Teresa, mais elle doit en épouser un autre, Fiera Mosca. Voilà en gros pour le pitch de cet opéra. On est quand même assez loin, Terry Gilliam, des épopées fantastiques que vous mettez en scène au cinéma.
Correct.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous
You are correct.
Vous avez raison.
Thank you. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet opéra, dans cette pièce?
Il y a quelques années, j'avais lu l'autobiographie de Cellini, qui est le seul artiste de la Renaissance à avoir écrit son autobiographie. Et je voulais en faire un film, parce que c'est extraordinaire, c'est fantastique. Cellini, c'est un peu comme le baron Munchausen, c'est un grand menteur. C'est aussi quelqu'un qui a énormément de talent en tant que sculpteur. Et son cheminement d'artiste est très passionnant. Quand on a pris l'opéra, c'est toujours été très, très difficile à monter, celui-là. Berlioz a fait 3 versions différentes de cet opéra. Et je crois qu'aucune n'a rencontré un grand succès. Et c'est la raison pour laquelle moi je fais des opéras. Parce que l'opéra, il n'y a pas beaucoup de succès. Parce que moi je ne sais pas comment faire de l'opéra. Mon approche, c'est de faire des soirées pleines de spectacles. Et donc on a cette partition merveilleuse. On a une histoire qui est très... qui boite, vraiment.
Berlioz
essayait, je crois, de trouver le succès. Et je crois que c'est son manager qui lui a dit « Il faut absolument qu'on ait une comédie romantique. » Et Berlioz, c'est pas du tout son genre. Il parle de choses profondes, de frustration. C'est un artiste pour les artistes, comme Cellini. Ses opéras m'ont toujours paru comme un artiste qui tente de créer quelque chose, par la souffrance, par la joie, par l'extase de la création. Et c'est comme ça qu'on a approché finalement cette œuvre. De bien des façons, je travaille sans lire moi-même le texte, l'histoire. Et ce qui m'a intéressé là, c'est que c'est un carnaval, et il y a un carnaval qui est au centre de l'histoire. Et voilà comment on a approché l'œuvre. En essayant de transformer Cellini en quelqu'un de complexe. C'est pas simplement un type qui tombe amoureux. Pas du tout. C'est en fait quelqu'un qui essaie de voler la fille du trésorier du pape. C'est un séducteur. C'est un homme dangereux. C'est pas forcément un gentil. Mais c'est un génie.
Berlioz a été séduit, comme vous, par les mémoires de Cellini. C'est à partir de ces mémoires qu'il avait choisi de composer cet opéra. Et vous l'évoquiez, ça a été très difficile à monter. D'abord rejeté par l'Opéra Comique à Paris, puis monté, créé à l'Opéra de Paris. Mais ça a été un tel soufflet, on va dire, pour lui, que les critiques ont été extrêmement cruelles. Ils y ont trouvé une dramaturgie vulgaire, la musique plus ou moins dissonante. L'opéra a ensuite été sifflé à Londres quand il tenta de le diriger, Berlioz, devant la reine Victoria. On entend bien que vous aimez les défis en choisissant d'adapter cet opéra maudit de Berlioz après avoir déjà, vous, monté, créé sa damnation de Faust. Mais comment vous faites, Terry Gilliam, devant les difficultés d'un film, d'un opéra? Est-ce que vous respectez la partition ou est-ce que vous inventez des ruses pour essayer de contourner la difficulté?
Vraiment, je reviens à la musique, d'abord, à l'émotion de la musique. Le texte, parce que vous savez, moi, je suis convaincu par le fait que Berlioz était comme un réalisateur de films. Il avait besoin de trouver le fric pour réaliser ses rêves. Mais il pouvait simplement y arriver avec une vedette de Hollywood. Il était sans doute, on lui mettait la pression pour que ce soit plus marrant, que ce soit une comédie. Mais ça, c'était pas du tout sa nature à Berlioz, ni même Cellini. Donc, moi, j'essaie de donner un petit peu même plus de vulgarité à que même Berlioz ne pouvait le faire. Mon attitude envers le public de l'opéra, c'est toujours un petit peu étrange. Il y a trop de riches qui vont à l'opéra. Avant, l'opéra était un art très populaire. Aujourd'hui, c'est pour des gens très friqués qui arrivent avec leurs vêtements snobs, alors que moi, j'essaie de les mettre un peu mal à l'aise.
Vous l'imaginez comment, ce Berlioz? C'est vrai qu'on a tendance à le décrire comme un triste sire, un romantique épleuré. Je vous propose d'écouter le point de vue d'une musicologue canadienne, Sylvia Lécuyer, qui met plutôt en avant une autre facette, peut-être moins connue, du compositeur français.
On a l'habitude de présenter Berlioz comme un personnage sombre et sérieux, romantique et passionné, déchiré même, en oubliant trop facilement son goût pour l'absurde, la bouffonnerie, le grotesque. Mais la vérité est qu'il possédait un extraordinaire sens de l'humour, et que cet humour est présent partout, dans ses lettres, ses critiques et même dans sa musique. Son humour est parfois charmant, souvent cinglant, féroce à l'occasion. La plume de Berlioz n'épargne personne. Les compositeurs de fugues, les dilettantes, les hommes de lettres qui écrivent sur la musique sans jamais l'avoir apprise, les directeurs de théâtre, Castille Blas, les ténors de l'opéra, les pianistes et même les autorités ecclésiastiques.
C'est pour ça que j'aime Berlioz. Cet opéra en particulier est assez étrange pour moi parce que moi je me sens proche de Cellini et je m'identifie aussi à Berlioz, aux deux. Leur œuvre m'intéresse parce que c'est un peu un miroir de ce que moi je fais. Donc il y a trois énormes égos ici en œuvre. Et vous savez qu'on a monté la Damnation de Faust à Berlin l'année dernière. Et beaucoup de public a sifflé. C'est génial. On savait qu'on tenait un succès.
Terry Gilliam, on peut dire que vous êtes du coup un artiste exalté, têtu, et aussi un peu bandit comme Cellini et comme Berlioz, qui s'identifiait d'ailleurs à Cellini. La boucle est bouclée.
C'est étrange parce que sa musique à Berlioz, elle me touche, parce que je la comprends. La frustration d'essayer de faire quelque chose de très beau, et je comprends aussi la douleur de simplement constater ce que l'on arrive à produire. Et moi, j'adore l'humour qu'il y a là-dedans. Et cette musique, elle me donne le sourire. Et elle me fait pleurer. Elle fait tout pour moi. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui sont des musiciens, qui jouent des instruments, et ils détestent Berlioz. Ils veulent du Mozart. Mais Mozart, il aimait vraiment les proutes. Et voilà, et c'est Berlioz, il en met, c'est drôle. Et c'est vulgaire. Mais c'est vrai, c'est véritable, c'est sincère. Et sur scène, on essaie de rendre quelque chose de très beau. Mais c'est pas tout propre. C'est un peu crade.
Mais c'est aussi ça, Terry Gilliam, cet opéra, ce Benvenuto Cellini, c'est aussi une réflexion autour de la condition de l'artiste, sur sa solitude, sur les affres de la création. Et ça pose une question, comment trouver de la fantaisie, comment trouver l'inspiration créatrice, la liberté vraiment de créer, dans cette opposition entre la figure de Cellini, l'artiste libre, et son comparse Fiera Mosca, qui est plutôt l'artiste académique. Comment trouver la fantaisie dans la contrainte ?
Mais vous savez, moi je vis dans un monde et je travaille dans un monde où le réalisateur qui a le plus de succès, c'est Steven Spielberg, pareil. C'est ça la réalité des artistes. Moi j'utilise pas ce mot-là, j'utilise ça vraiment, simplement entre guillemets. Il faut exploser, il faut de liberté, et en même temps, plus il y a de contraintes, plus l'explosion est forte. Donc c'est une bataille. On travaille dans des restrictions fortes, mais c'est ça qui crée la bataille et qui produit des choses intéressantes. Si j'ai assez d'argent, assez de temps, ça va être chiant. Quoi que je fasse, ça sera vraiment ennuyeux. Je suis convaincu qu'un artiste est protégé de la médiocrité par le manque d'argent, le manque de temps et les difficultés.
Spielberg, c'est Fiera Mosca?
Spielberg would be Fiera Mosca?
Why not?
Et pourquoi pas? C'est lui qui a le succès. Mais c'est pire que ça, en fait. Finalement, Spielberg, il fait ce qu'il veut, mais il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui changent leur projet pour trouver le succès. Et ça, c'est ça le crime.
Terry Gilliam, vous êtes un amateur du grand angle au cinéma, de l'espace à l'écran. Cette scène de l'Opéra de Paris, cette scène de l'Opéra Bastille, est-ce qu'elle vous offre ce souffle-là? Ou est-ce que vous vous sentez parfois un peu à l'étroit sur une scène d'opéra?
Non,
la scène ici, ça va. C'est une grande scène. Et il nous faut de l'espace, c'est vrai. Parce qu'on a tout un chœur, on a de grands éléments de décor. Donc non, ici c'est vraiment ça, ça sort très bien. Par contre, sur un plateau plus petit, ça serait impossible.
Et comme au cinéma, vous composez sur cette scène comme sur un tableau, vous la voyez comme un plan unique?
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire des tableaux, oui. Et c'est intéressant parce que ça ressemble vraiment au cinéma comme processus où nous avons un cadre et des proportions à respecter. Et c'est à l'intérieur de ce cadre qu'on essaie de créer de belles images. C'est plus difficile parce qu'on est limité par le temps. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'organiser pour travailler ensemble. Et peut-être que le 20 mars, on sera prêt.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Terry Gilliam, peintre, sculpteur, metteur en scène, cinéaste, réalisateur. On a évoqué l'espace à l'instant, parlons un tout petit peu du temps, mais d'abord je vous propose d'écouter le duo, l'échange entre Cellini et Teresa. Ma jeune maîtresse, hâtons-nous de jouir de la paix. Le temps va s'enfuir. Est-ce que pour vous, Terry Gilliam, l'opéra, comme le cinéma, c'est un art du temps?
Mais vous savez, c'était l'art d'un autre temps. Peut-être pas que ce n'est pas vraiment un art de notre temps. Mais ce que j'aime, c'est que l'opéra est grandiose. L'opéra, ça n'est pas quelque chose de naturaliste. Et c'est ça que j'aime. Je peux y être comme, finalement, un dessinateur de BD. Je peux transformer les choses. Je peux rendre les choses plus grotesques. Je trouve que notre grand moment pendant le spectacle, c'est la pantomime. Parce qu'elle est vraiment vulgaire. Elle est vraiment chouette. Et on a deux groupes, on a les riches et les pauvres sur le plateau. Et entre eux, on essaie de faire des choses et de montrer des choses qui seront un peu embarrassantes pour certains, je l'espère. Mais peut-être que le public va trouver ça drôle. La plupart des opéras que je vois ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'il y a une seule note, un seul thème. Alors que chez Berlioz, il y a tellement de choses profondes, tragiques, comiques. Il y a beaucoup un ton très, très varié. Je trouve qu'il y a beaucoup de prétention dans l'opéra. Et moi, j'essaie de faire éclater ça, de m'en débarrasser.
Vous ne parlez pas, Terry Gilliam, vous galopez. On a du mal à savoir si vous êtes un homme aussi pressé que votre langue semble l'indiquer, ou si vous n'êtes pas finalement une montagne de patience.
Il faut être patient. Parce qu'on, c'est en perdant beaucoup de temps avec cette patience qu'il faut vraiment travailler très très vite une fois qu'on se met au boulot.
Et c'est la patience ou la croyance qui vous a fait tenir 25 ans sur un projet. On va parler un petit peu de Don Quichotte parce que le film L'homme qui tua Don Quichotte arrivera bientôt au cinéma, en mai, on espère, en France. C'est une adaptation libre de Cervantes, ou plutôt une réactualisation par vos soins, Terry Gilliam. La fin aussi d'un calvaire pour vous, ou d'une aventure cinématographique qui vous aura pris 25 ans. Il y a eu cette première expérience en 2000 avec Jean Rochefort, Johnny Depp et Vanessa Paradis qui a fait l'objet d'un making-of, celui de cette aventure avortée, Lost in La Mancha.
Scene 1, take 2.
From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote.
Cut, cut, cut. What's going on?
Il y a un an et demi, Jean Rochefort m'a appelé pour me dire c'est le plus grand jour de ma vie. Terry Gilliam m'a appelé pour me confier le rôle de Don Quichotte. Le même homme par qui ce film est arrivé, Jean Rochefort, aujourd'hui n'est pas avec nous. Donc nous avons décidé de mettre en œuvre la suite du film en tenant compte de l'hypothèse optimiste du retour de Jean avec nous le 16 octobre.
En 2009, vous relancez le projet avec d'autres acteurs, puis une fois encore en 2014, puis une fois encore en 2017, et là c'est la bonne. Le film est tourné en 3 mois avec Jonathan Pryce, qui était déjà le héros de votre film Brasil, avec Adam Driver en Sancho Panza. Terry Gilliam, est-ce que vous avez enfin fait le film que vous rêviez de faire ?
Je ne suis pas sûr que c'est le film qui c'était le film dont je rêvais il y a 25 ans. Vous savez, les films ont leur propre vie. Et 25 ans de développement, ça change les choses. C'est un film que vraiment, dont je suis vraiment fier. Mais il est devenu ce qu'il est lui-même. Et moi, je me suis simplement accroché. C'est tout. C'est un procédé, vraiment un processus très étrange. J'imagine que c'est ça, l'art. Au bout d'un moment, je lance le projet, et puis c'est le projet qui m'attrape par le collet et qui, finalement, mène sa vie. Je crois que je suis simplement la main qui écrit, mais c'est tout. Et Jonathan Pryce est là, on a Adam Driver aussi. C'est du coup un film très différent qu'avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Et à chaque fois qu'on apporte un nouvel élément, ça transforme le tout. Cependant, le résultat m'a pris... Il m'a fallu un an à apprendre à l'aimer, ce résultat, mais maintenant je l'aime. Mais vous savez, ce que l'on produit en tant qu'artiste, parfois, vous le détestez. Ce que votre production à vous, c'est vraiment ce que vous haïssez le plus. Vous fabriquez quelque chose qui refuse, quelque part, d'être ce que vous vouliez qui va... Alors, c'est une bataille. Une bataille entre l'artiste, entre guillemets, et puis l'œuvre. Mais voilà, nous voilà de retour à Cellini.
Exactement. Et la folie dans tout ça, c'est qu'en lisant le livre de Cervantes, Terry Gilliam, vous vous étiez dit, mon Dieu, c'est infilmable. Et vous y êtes quand même allé. Et là, on retrouve Berlioz, on retrouve effectivement Cellini, on retrouve la fantaisie et la folie de l'artiste. Jouer avec les époques et les lieux, votre cinéma est fait d'aller-retour aussi, de juxtaposition d'époques. Sacré Graal, l'armée des 12 singes et à nouveau dans L'homme qui a tué Don Quichotte, Terry Gilliam. Tous vos personnages sont toujours décalés par rapport au monde dans lequel ils évoluent. Est-ce que vous, Terry Gilliam, vous vous sentez décalé par rapport à votre époque ? Est-ce que vous êtes à contre-temps ?
Le seul temps que je comprends, c'est le présent. Je ne sais pas l'avenir, le passé, etc. Je sais simplement être dans l'instant. Et c'est tout. Je ne sais pas quel temps, quel moment cela représente. C'est très étrange. Ce que je sais simplement, c'est que j'essaie de parler du monde dans lequel nous sommes et de le mettre dans mes films. Parfois, j'y arrive. Et bien des fois, j'échoue.
Et parfois,
ça peut être aussi quelque part le monde de quelqu'un d'autre et que je ne m'en suis pas rendu compte.
Pour terminer, on a retrouvé, Terry Gilliam, ces mots de Jacques Brel sur Don Quichotte. Il dit que Don Quichotte, c'est un saint.
C'est un saint, enfin, Don Quichotte.
Avec ça de ridicule, bien sûr, mais de noble aussi. Et puis il y a cette transposition constante. Enfin, on lui dit que c'est un moulin. On lui dit tout, d'ailleurs. Il ne veut pas le savoir. C'est joli. Et puis, à ce côté, il repart. Hein. Don Quichotte repart. Et c'est rare d'avoir à sa disposition un personnage qui ne souffle jamais, cet homme. Il meurt. C'est sa seule manière de souffler. Continue. Il parle d'ailleurs des champs de bataille, enfin, Cervantes, hein, en disant, mais
pourquoi ne pas mourir en se trompant? C'est bien plus heureux que de mourir en constatant l'échec de choses qui ne sont pas des rêves. Moi, je suis parfaitement de mauvaise foi, je préfère rêver, c'est pour ça que je m'accroche à Don Quichotte. Enfin, il mourrait, ça m'ennuierait beaucoup.
Oui, c'est l'homme qui se relève. Il est battu sans arrêt, obligatoirement, puisqu'il transpose et qu'il va au bout de sa transposition. Enfin, il est logique, il est quotidien, il est moderne, enfin, en ce sens-là. Après chaque défaite, cette défaite, il lui trouve une raison qui est donc fausse, en général, enfin, comme toutes les explications de défaites, il trouve une espèce d'alibi. Il n'a pas été sacré chevalier, suivant les normes, enfin, tout ça. Mais il redémarre. C'est pas, la question de redémarrage n'est pas mise en question, pas une seconde. Et ça, c'est ça qui est fantastique.
It's really funny.
Mais c'est drôle.
Let's forget about Chalady.
Alors, on oublie Chalady, là. C'est ça qui est intéressant, c'est que la fin de Don Quichotte, c'est ça. Et je l'avais jamais vu, cette citation que vous me dites. C'est exactement ça. Quichotte meurt et il vit pour toujours dans le même instant, dans le même moment. Mais voilà, c'est pas possible d'adapter Cervantes. Il faut adapter, il faut trouver son propre Don Quichotte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est comme quand on met un opéra, on met en scène un opéra. On fait notre version. Peut-être que d'autres comprendront qu'il y a d'autres choses à faire, à en faire certainement, mais on fait notre version à nous.
Voilà, une invitation à la rêverie par le fantastique pour échapper au réel. Ce sera notamment dans ce Don Quichotte tant attendu, L'homme qui tua Don Quichotte, Terry Gilliam, et une invitation aussi à rire. C'est à voir aussi en ce moment à l'Opéra Bastille dans ce Benvenuto Cellini, mis en scène par vous, Terry Gilliam, avec Philippe Jordan. À la baguette. Merci beaucoup.
Thank you so much for being with
us. Merci. Always lower your expectations.
Toujours, toujours, n'attendez pas trop. Vos attentes, mettez-les en veilleuse.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.
Ouais ! Un album qui a 50 ans, extrait de L'Homme de la Mancha, adaptation française d'une comédie musicale américaine inspirée de Cervantes, là encore par Jacques Brel. Au micro et sur scène, il était Don Quichotte.